Suzy Quattro, 48 Crash. Elle est toujours là, Suzy Quattro. Comme The Sweet, d'ailleurs. We are on a mission. Resurrect Glam Rock. Je sais pas si vous vous souvenez de cette publicité. Enfin, en tout cas, les gens qui regardaient certaines chaînes allemandes doivent se souvenir de cette publicité. En attendant, nous, petite interview de Suzy Quattro, pas faite par moi. Ça se passe en Angleterre.
Thank you very much. I just discovered I have a new nickname now called Wombat. Shit, never mind. We have our own little show goes on here in commercial breaks. In case you're interested, we have a nice little time. A fella comes out front, lady comes out, there's a strip with the tassels and the whole thing. She's been described as rock's leading lady, a little bundle of dynamite whose rocking musical style and leather gear have brought her fame and fortune. And before I bring her out here for a chat, let's take a look at the lady in action over the years. Yeah, look at that.
En entendant ce medley, moi je vois une filiation avec Girl School et Rock Goddess, je sais pas pour vous, mais écoutons un petit bout de l'interview de Suzy Quattro avec Don Lane.
This chair is too big.
Yeah, whenever we get the shorter people...
Hang on.
You need, what do they call it, a mantra or something you're supposed to... Aren't you supposed to do one of those prayers? Exactly. Put your feet down, let's see if they reach the bottom.
They do.
Do they reach the floor?
Yes, I go like this.
Oh, yeah? If you cheat, what happened to your eye here?
This is my birthmark.
Really?
It is, yeah.
I didn't see it in any of
these. My old man is about 6 foot tall. Nobody ever believes that, but it is. I was born upside down. And
really?
With my shoes on, too.
Yeah? I was watching that film clip over there, and the one thing, maybe I'm just because I'm a stickler or something, you had one piece of hair that kept coming over.
I know,
you're doing
always.
It, and I thought you were shaking your head to get it off and could never get it off. Were you trying to get it off? Huh?
That happens to me every time I do a television show. This one little bit here just kind of sticks.
Does it? Oh, yeah, that's right. It does, too, even if you put it there. I was reading today about the Detroit, Michigan.
That's a pretty heavy rock town. I mean, isn't it the birthplace of Motown and all that business? And
yeah,
yet you chose to leave there.
It's got Motown, and it's also got most of the music industry is from Detroit. Hmm. Half the bands that are making it today, you got Ted Nugent, the Amboy Dukes, Brownsville Station, the MC5. There's millions of people. Hmm. It's a very, very music-oriented city.
Well, why did you leave there? Why did you choose England, to leave there and go to England?
I was in bands from the time I was 14, and we were touring America all through the years and everything. 1970 it was, I decided to go solo. And at that time, I got an offer from an American record company to stay in America and make an album and be a star.
Yeah.
And I got
an offer. That's what they told you, anyway.
Yeah, that's what they told me. Yeah,
yeah,
I've heard that before, yeah.
Yeah.
And then I also got an offer to go to England. And I just chose to go to England. I ended up staying there. I was only supposed to go for 3 months, and that was 1971. It's now 1981, and I still live there.
Yeah, and on an estate now, they tell me. Yeah, you first went there, you had a small apartment. Now I saw a picture in the newspaper the other day, this beautiful estate with gates.
I wish I did have a small apartment. I lived in a room no bigger than this chair.
Is that right?
Yeah.
Yes.
And the toilet was down the hall. It was terrible. Absolutely diabolically low.
Alors donc, on laisse Suzy Quatro de côté pour... rester en Angleterre avec Cocksparrer, donc il y a un pied dans le glam, un pied dans le punk et la hoï, on va dire ça comme ça. Et le morceau que l'on va écouter, c'est Chip on My Shoulder.
Is their life on Mars? sits on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on
David Bowie et les Spiders from Mars. Le morceau, c'est Life on Mars, extrait de l'album Hunky Dory, sorti en 71. Alors, comment dire, pour situer un peu le glam et les protagonistes du glam rock et du glitter rock, on va dire que la carrière de David Bowie est un peu parallèle à celle de Mark Bolan et de T-Rex, puisque les deux partent du phénomène Mods. Pas musicalement, mais en tout cas esthétiquement, visuellement, comment dire, au niveau des vêtements. Et ensuite, ils vont passer au folk, donc Tyrannosaurus Rex avec, pour Mark Bolan et en solo pour David Bowie, qui au départ s'appelle David Jones. Hein. Et ensuite, Mark Bolan démarre le glam rock et le glitter rock avec notamment Ride the White Swan, Gypster, Get It On. David Bowie suit, et on va dire que David Bowie a une touche un peu plus entre guillemets art et essai, là où Mark Bolan a une touche un peu musique populaire, on va dire ça comme ça. Mark Bolan, on va dire que c'est plus rock and roll, rockabilly. Et David Bowie, comme ce morceau par exemple, Life on Mars, on s'éloigne un peu de ça, on met un peu plus de piano, un peu plus d'autres choses. Là, on a la vidéo sous les yeux, il y a un côté mime, un côté théâtre, un côté art nouveau, enfin, un côté, qui paiera plus aux esthètes et on va dire aux. Et à la critique éventuellement, ou à la critique très intellectuelle, que Mark Bolan, qui va très rapidement se faire traiter de, pas de populisme, on va dire, vous verrez qu'il y a la tièvre extasie, on va dire, en chanteur pour minette, hein, pour résumer. Mark Bolan va passer à la soul un petit peu, et puis pareil pour Bowie, sauf que Bowie, évidemment, ça sera mieux vu, alors que Mark Bolan, on dirait que c'est une trahison, etc. Et Mark Bolan va mourir donc en 77. Alors, entre-temps, les deux sont amis, hein, les deux seront se brouiller puis se réconcilier en 76, notamment. Enfin, ils feront en tout cas enregistreront des morceaux ensemble, notamment dans l'émission de Mark Bolan. Et donc, Mark Bolan meurt en septembre 77. Et Bowie, lui, on va dire que quelque part, il annonce un peu le post-punk, mais il est dans une autre dimension. Voilà pour Bowie, et on va écouter maintenant nous Slade avec le morceau We Are Really Gonna Raise the Roof. C'est extrait de la compilation Can the Glam, écoutons donc. On reste en Angleterre, hein, vous aurez compris. C'est pas Merry Christmas ou Mama We're All Crazy Now, c'est We Are Really Gonna Raise the Roof. Et petite interview de Slade, et c'est d'un documentaire qui s'appelle Perseverance.
Slade's life story, very nearly. I've called the show Perseverance. Why? Well, that will be explained towards the end of the show. Now, Slade have been together for 20 years just about now, and I've been a Slade fan for just half of that. You can tell by my Slade t-shirt. So I was only too glad when I was offered the chance to chat to Noddy Holder, Jimmy Lee, Don Powell and Dave Hill. When I started chatting to Dave and Don, I didn't realise it was actually Dave and Don who formed Slade.
Dave and myself were in the band together a couple of years before Slade actually, that was about 1964, we got to go on it.
That's right, I met Don, he was in a group called Avengers, and I was playing with a stupid trio, you see, in a pub. And this bloke called Chalky White, you see, who was the manager of this Benders group, spotted me in this trio, and this trio was really old blokes, and I was playing Shadows numbers. It was really weird, you know, and he spotted me, you see, and he thought, he'll fit the role in my group, sir. So along I went to meet this group in Bilston, and I didn't really know Don very well just then, because he was very quiet, so he didn't really say anything. And he said, he's the drummer, you know, he was like, you know, really quiet, and I thought, hello, top that one. And there was a couple in the band who were real friendly, you know, like Kumavi, you know. One looked like Jimmy Savile in this band, you know, and there was a big fat singer as well. We've got a great voice. And I come in the group, and I also played Chuck Berry numbers, you know, they all sort of, you know. And we made up this group, we stuck together for a while. And then I got friendly with Don, eventually later, got to know him, you see. And then the group had disarray in the later times, you see. I'd left my job at work, and Don was going professional and all this sort of thing. Cut a long story short, basically the group split up. And we kept the name, as it happens, called the In-Betweens. And Don knew a singer called Noddy Holey, you see, who was singing in a group called Steve Brett and the Mavericks. And it was in the days of the Maverick series, you know, where they used to wear the Maverick toys. And I remember him, you see, I always thought he was a bit of a jerk, actually, you know. He used to stand on stage, sorry about this, he used to do these funny movements, you know, and do sort of strange PJ Proby numbers, and, you know. But Nod was like the backup vocalist to this, you know, the Get Me type
Steve
thing.
Steve Brett.
Yeah. Steve Brett, yeah. And Nod was the one that used to do the talking to the audience, you see, and he had this, and Don had clocked him and seen him. He said, I'll have a word with him. Well, talk about things that really come together like a glove. We'd split, and I was walking uptown, and there he was, Nod, you know, and I says, fancy a coffee? So we wandered into this Beatles place, it was, you know. And it was really like, you know, a typical Beatles story, like, fancy joining the group, mate? Mm. And he said, no, I'm doing nothing. So I said, well, we'll have a rehearsal, you see. But also, at the same time, we'd been auditioning for a bass player, you see. And then there's Keith coming, you know, with a polythene bag and a guitar stuck in it.
A little red nose, you know.
A little red nose.
16, you know.
Yeah. That was Jimmy Lee. Yeah. Yeah, it was calling Blood Knock.
Yeah.
A little plum, ah. Yeah, look, I mean, he's really young, and he comes straight from school, and it was Jimmy Lee, so. And I spotted his style of playing. He played very fast. He played like a lead player would play a bass.
I left school to join this group, and they were all professional. This was 20 years ago. They were all professional musicians. I'm 3 years younger than them. So I was a kid. I think when you're sort of 16 and 19, there's a big difference.
Mm.
So I left school and I saw all these groups that I couldn't see that were all advertised in the paper, and it was the Midlands top group and the fabulous so-and-sos. And I left school and I was in these pubs, which I'd always had a baby face, and I wasn't able to go into the pubs. And here I was.
Alors, on va pas vous traduire, mais on va essayer de trouver l'histoire de Slade si vous êtes sage. En attendant, écoutons The Quick avec le morceau Ragdoll.
I've changed.
c'était The Quick, et là on écoute Mike Ronson. Pour ceux qui ne savent pas, Mike Ronson, c'est le guitariste et musicien principal des Spiders from Mars, qui accompagnait donc David Bowie. Là, on est en 1990 à Paris, février, le 5 février 90 pour être précis. Et donc, il joue pour un passage filmé, on va dire. C'est un reportage par un certain Philippe Oliac. Ça se passe à l'Élysée Montmartre.
Louis came in to tell me what the words were for Sweet Jane. He went on and sung it on the track. I still couldn't understand what the words were for Sweet Jane. Bowie was great on Boots. The actual single, you know. Done him two nights in Olympic in Barnes.
Donc là, il y a Ian Hunter,
le mode
de Hoople's. Qui tient le vinyle de l'album All the Young
Dudes.
My musical roots really go back a long way. I was trained classically, so I played classical piano, violin, and recorder, and then I wanted to be in a rock and roll band.
Donc là, c'est Mick Ronson qui dit qu'il a un entraînement classique par rapport à la musique, c'est-à-dire il jouait du piano, du violon, et le virus de rock and roll l'a saisi.
I was playing the violin and I didn't want to play the violin, I wanted to be a cello. And before you can play the cello, you have to play the violin first, and then the viola, and then you're allowed to play cello. So,
Ah oui, alors il voulait jouer du violoncelle, donc c'est cello qui dit cello. Moi j'ai mal compris. Donc il dit pour jouer du violoncelle, il fallait d'abord passer par le violon, et lui il aimait pas trop ça, mais voilà. Et donc il a pu ensuite passer au violoncelle.
And I was listening to people like The Shadows or Duane Eddy. And Duane Eddy, when he played the guitar, because he played everything on the bass strings, that was kind of very close to with the cello.
Alors, il dit l'écouter les Shadows et Duane Eddy. Alors, les Shadows, fameux groupe instrumental. Duane Eddy, c'est un des rock'n'rollers de la vague 50s. Et dit lorsque ce que jouait Duane Eddy, il jouait surtout avec les cordes basses. Et donc, il dit ça se rapprochait un peu du violoncelle.
So then I decided that I would play the guitar. So when I got a guitar, I played everything like on the bass strings like Duane Eddy. Because that was the nearest thing to a cello. And that's how...
Donc vous aurez compris que sa principale influence pour la guitare, c'est Duane Eddy, lorsqu'il sait bien la guitare.
That's how I got started in rock music. Well, that all started... around 1969, and David was, before that period, David was into doing mime act on stage.
Alors maintenant, il parle des débuts avec David Bowie. Alors, il dit avant, donc il parle de la période, c'est 68-69. Donc, avant cette période-là, David Bowie faisait surtout du mime.
And then, his wife, Angela Bowie, she was the one that kind of sped on all the dressing. I guess a lot of people remember that because it was more like glam rock, glitter rock. And she's the one that kind of pursued that.
Et donc après, donc c'est la femme de Bowie, Angela Bowie, qui s'occupait plus de l'aspect vestimentaire. Donc il dit, je pense que les gens se souviendront de ce qu'on appelait le glam rock, le glitter.
Area. And I forgot what the real question was anyway.
Donc, il dit en gros, c'est sous l'impulsion de la femme de Bowie qu'ils ont commencé à porter des costumes flamboyants, du lamé, etc. Ben, des trucs qui brillent, quoi. Du glitter, du glam.
What was the question? The Rats was an R&B band, or a blues band in Hull, Yorkshire. And that was one of the first bands I was in as I was growing up. And I really enjoyed playing with that band. It was really fun. We used to do a lot of cover material and everything, but
donc là il parle de son premier groupe qui s'appelait The Rats et qu'il aimait bien. Alors apparemment c'est un groupe qui jouait notamment du blues, pour ce que j'ai pu comprendre.
But just to, you know, be up on stage and play. We just had a real good time. Got into lots of mischief. That album was done, it was kind of put together very quickly. It was an idea to go in and make an album, and the whole thing was kind of put together very quickly. And we rehearsed some of the songs in the studio, and we just played and recorded them and finished them and put it out. It was a real quick, quick album to do.
Là, il parle de l'album The Man Who Sold the World, dit que ça a été un album rapide à mettre en place, enregistrer, produire.
But and it was really exciting because it was probably the first real project that I was going to be working with after the fact of doing an album. I only ever played one album before, and that was an album by a folk singer from Michael Chapman, and there I was.
Alors, avant de poursuivre, pourquoi il y a Ian Hunter ? Alors, Ian Hunter de Mott de Hoople, parce que Mott de Hoople faisait partie, on va dire, de l'entourage de David Bowie. C'est-à-dire, David Bowie, c'était pas seulement l'artiste, mais il y avait aussi une compagnie de management. Et donc, ils ont signé donc Mott de Hoople et ils ont bossé avec Lou Reed. Et ils ont aussi bossé avec un certain Iggy Pop et son groupe de Stooges. Et en fait, l'album Raw Power qui est sorti en 71-72, je crois, ou 72-73, je ne sais plus. Enfin bref, le dernier album en fait des Stooges, première version. Et ensuite, c'est la descente aux enfers des Stooges. Iggy Pop l'a longtemps entend commenter, et puis bon, si vous lisez Rock'n'Folk, etc. En gros, on leur a payé le voyage pour aller en Angleterre. Là-bas, en Angleterre, ils étaient cloîtrés dans le studio, ils devaient demander la permission pour jouer, parce qu'ils voulaient faire des concerts, ils ont fait très peu de concerts. Alors, ils étaient dans un état plus ou moins déplorable déjà en arrivant. Ils ont enregistré l'album. Ils sont pas tout à fait d'accord sur le mix. Enfin, il y a eu plusieurs mix. Il y a le mixage de Bowie et puis après des années après, Iggy Pop a refait le remix de Raw Power. Enfin bref, l'album sort, ne marche absolument pas. Le groupe repart aux États-Unis où est éjecté avec fracas de l'Angleterre pour repartir aux États-Unis. Et là, on va leur monter une tournée, mais on va dire qu'ils jouent devant des salles quasiment vides. Iggy se drogue de plus en plus et ils atterrissent à Los Angeles. Iggy est complètement explosé. Enfin, il n'y a quasiment plus de groupe. Et donc, les Stooges split en fait à Los Angeles, en Californie en tout cas, au milieu des années 70. Donc Iggy va rester là-bas et puis les autres vont se disperser et voilà. Alors Iggy Pop, on va dire, il va vivoter et puis il va quasiment mourir, j'ai envie de dire quasiment sur son place. Il sera sauvé par une chose, c'est qu'il a composé avec David Bowie le morceau China Girl. Ce morceau China Girl, il va être enregistré sur l'album de Bowie des années 80. Là où il y a Let's Dance, je me souviens plus du nom de l'album, ça va devenir un tube comme Let's Dance, et donc ça va apporter des royalties à Iggy Pop, qui va pouvoir se soigner, se sevrer, et donc voilà, au moment où il allait il allait terminer dans la rue, ben il revit. Voilà, j'ai fait un résumé de l'ambiance, des liens entre David Bowie et Iggy Pop. Bon, entre-temps, oui, dans les années 70 aussi, au milieu du... pendant la vague punk, ils vont aller enregistrer à Berlin des albums de... Alors, Iggy Pop, il y a The Passenger, enfin, le morceau de Passenger, et puis David Bowie, c'est... je crois que c'est les albums Heroes du côté de Berlin, des albums sombres, donc qui annoncent, on va dire, le post-punk, la cold wave, etc., etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous, on reste dans le glam et on va écouter extrait du recueil de démos A Hard Day's Night de New York Dolls qui est sorti chez Norton Records, le label de Myriam Lina qui a joué dans les Crumbs au tout début. Et il y a souvent la pub de Norton Records à la fin, en quatrième de couve de Ugly Things. Il faut savoir aussi que Myriam Lina a été interviewée dans les deux ou trois derniers Chéri Bibi. Donc elle a une histoire très intéressante. Elle parle de rencontres notamment avec Dolly Mite, avec Esquerita, avec les Cramps bien sûr, et avec d'autres, avec Azzy Atkins, etc., etc. Bref, nous on va écouter un extrait. Donc, de cette compilation Hard Day's Night des New York Dolls, le morceau qu'on va écouter, c'est Jet Boy.
Jet boy fly, jet boy fly.
Et New York Dolls, Jet Boy, démo. Alors, pour revenir sur David Bowie, et, alors, je crois que la compagnie s'appelait Main Man, compagnie de production. Alors, pour revenir donc à David Bowie et Spiders from Mars, donc, ils ont donné, pour résumer, hein, caricaturer même, ils ont donné un coup de main à Lou Reed, donc, qui sortait du Velvet Underground. Ils ont donné un coup de main donc, à Iggy Pop et Stooges. Ils ont donné un coup de main à Mott The Hoople. Alors, Mott The Hoople, ils ont eu un hit, donc All The Young Dudes. Et après, bon, ça n'a pas trop marché. Donc, je crois que pour Lou Reed, bah, il a eu le hit avec Walk on the Wild Side, il me semble. Puisque c'est après le Velvet, ça. Et Iggy Pop, bah, il n'y a pas eu de hit, en fait. Hein. Il y a eu bon, des classiques après, hein, comme Raw Power, comme Search and Destroy, mais il n'y a pas eu de hit tout de suite pour les Stooges. Voilà donc pour le rôle de David Bowie et de sa compagnie. On va écouter un autre groupe glam américain qui s'appelle Pandora. Le morceau, c'est Crack Your Skulls. Pandora, je crois qu'il y a eu une interview dans un numéro de Ugly Things.
Sure.
T-Rex, Life is Strange, on va enchaîner avec un morceau de Can de Glam et d'abord petite interlude.
Thank you.
Alors ça c'est Mongo Jerry, Long-Legged Woman Dressed in Black. J'en profite pour saluer le disqueur avec qui j'ai discuté au moment de la grande braderie de Tours, qui avait du vinyle, surtout du vinyle. Donc il y avait des clients qui cherchaient le Electric Warrior de T-Rex. Donc voilà, on a embrayé sur le glam, puis la soul, le funk, la blaxploitation, un peu le hard, un peu le terreau de prédilection de l'émission Crossover, puisqu'il y avait un monsieur qui cherchait de la rumba congolaise, enfin de la salsa au départ, et puis on a envoyé sur la rumba congolaise, sur des musiciens nigérians, camerounais, etc., etc. Voilà, et des caribéens aussi. Hein. Voilà. Et bien on va écouter justement un bout d'interview de Mark Bolan, et après on va passer à un autre extrait de Can the Glam.
But meanwhile, let's jump the generation gap and greet Mark Bolan. I've been reading recently, Mark, in a newspaper, an article which suggests that you are the successor to the Beatles. That you, in fact, claim that you're a successor to the Beatles.
I never said that.
You didn't say that?
No way. You continue, and I'll fill in. Go on, please.
Do you have in your mind any intention?
They
said that. Okay. Now, how does it strike you then, that clearly you have views and ideas about that?
Well, people, let me say, just people with, when anyone does anything, they seem to give you a reason. Right, you know, you're doing this show, and at some point they're going to say that you're like, I don't know, Parkinson or Andrews, you know, it's like they do something on you. And it's, we sold a lot of records, which I'm very grateful for, and it's very sweet and everything. It's very nice, and we do what we do. But we're not, I mean, the Beatles are one thing. The Rolling Stones were another, we are something else. Really.
Well, all right, so we all know what the Beatles were. I mean, some of us know what the Rolling Stones were.
Yeah, they turn it into, they want to pigeonhole you into something that is not necessarily what you do. I'm sort of a cross between a lot of people, media-wise, being that, I mean, the first person that really turned me on to things. I'm moving a lot, I'm sorry.
No, move to your
can
heart.
Can I whiz?
Move around, whiz around. As long as you don't knock the mic, you can whiz anywhere.
Like really with when I decided what I was going to do was Bob Dylan, because I realized that I started as a poet. I used to write when I was about 9. And I realized that if I used what really moved me as a human being, which is rock and roll, not pop music, because that is too wide, the gap, rock and roll. And I put the words that I felt very deeply inside me, that it, you know, it would be all right. And he was successful at that, and I figured I might be.
Getting back to this dreaded article, which clearly is going down like a lead balloon with you, I want to quote you a bit, which says, for the first time in pop history, we have a superstar projecting not sex, but romance. Sex is a part of it.
That was Lord Byron, wasn't it?
Could well have been Lord Byron, yes. Sex is a part of this, but it's sex by courtesy of the Magic Prince, and I presume that means you. Who is going to deflower the young virgin in an atmosphere of blissful romance.
I like that.
What does that mean?
I don't know. I think what they're trying to imply is that, I don't know, the appeal of what I'm supposed to be to that thing is like a teenage crush thing.
It makes you out as a kind of wistful, magical, distant...
You know better then, right?
Crunch, let's do it again, sur Can the Glam.
I'm
c'est le moment des news. Vous aurez reconnu le générique, les sélecteurs, Missing Words. Alors, on commence quoi au niveau des news? Alors déjà, on salue Alvilda, donc qui a mis un nouveau titre, enfin un clip pour le morceau Angoisse. Alors je pense que c'est un extrait de l'album à venir ou d'un prochain 45 tours. Donc, on salue Alvilda. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Donc, cette semaine, nous perdons le chanteur de Brujeria, Juan Brujo. Il nous a quittés le 19 septembre. Il avait 61 ans, je crois. Et nous perdons une légende de la soul music, puisque nous perdons Tito Jackson, donc chanteur et guitariste, membre des Jackson 5. C'est celui donc, qui avait été pris en flagrant délit en train de jouer sur la guitare de son père. Donc, oh, je ne me souviens même plus du nom du père, j'allais dire Peter Jackson, mais non, ça c'est le réalisateur. Enfin bref, le père lui dit « Bon, bah, montre-moi ce que tu sais faire ». Et au final, il a fini par lui acheter une guitare, parce qu'en bon, il avait cassé la corde, en fait, hein, de la guitare, ou Joe Jackson, voilà, il s'appelait le père. Voilà, donc Tito Jackson, chanteur, guitariste, membre des Jackson 5, il avait 70 ans, qu'il repose en paix, les deux, donc le chanteur de Brujeria et Tito Jackson. Alors maintenant les bonnes nouvelles. Alors d'abord, il y a une compilation qui s'appelle Super Disco Pirata chez Analog Africa qui sort le 15 novembre. Et alors pourquoi Disco Pirata? Parce qu'en fait, dans les années 80, il y avait des versions pirates de disques d'artistes latino-américains qui sortaient. Notamment au Pérou, au Mexique, au Colombie, en Équateur. Et donc, cette compilation, donc Super Disco Pirate, en fait, réunit donc des pressages à peu d'exemplaires. Hein. Donc, en fait, ils réunissent tout ce qui a été sorti, des pressages qui datent des années 80 et après. Donc qui sont compilés donc, sur cette compilation Super Disco Pirata. Donc vous avez des artistes péruviens, mexicains, colombiens, équatoriens. Et donc Analog Africa réédite tout ça, donc quelques perles, le 15 novembre donc, sur la compilation Super Disco Pirata. On rappelle que le nouvel album de Nasty Savage, donc Heavy Speed Metal de Floride, ça sort le 10 octobre 2024. Il y a deux extraits qui sont écoutables sur certaines plateformes. On vous recommande, on reste dans les heavy metal, les deux épisodes consacrés à la scène française entre 1978 et 1995 avec David Martin. Donc David Martin de Voyage au centre de la scène qui a d'ailleurs fait un sujet sur le double live de Misanthrope qui est récent. Donc David Martin qui est sur le podcast Dans le secret des dieux. Et donc, c'est lui qui parle donc de la scène française de 78-95, en commençant par Trust. Et puis après, il s'étend sur la scène trash death metal de la fin des années 80, début des années 90. Puisqu'il en faisait partie avec son groupe Astro, on vous rappelle. Frustration participera au Bal des Vauriens 2025. Donc, c'est annoncé. Donc, c'est la deuxième annonce après le groupe anglais Crooks. Sinon, tournée du groupe de Tu l'as vu entre le 31 octobre 2024 et le 15 mars 2025. Donc, il y aura surtout des tournées, des dates en France. D'Angelo travaille actuellement sur son quatrième album solo. Il est en studio d'enregistrement avec notamment Raphaël Sadik. Donc ça, c'est une nouvelle Funk You. Sinon, chez Artus Film, deux nouveautés de plus. La montagne du dieu cannibale, donc réédition avec Ursula Andress, un film de Sergio Martino de 1978. Et le film Un homme à genoux de Damiano Damiani de 79 avec Giuliano Gemma qui a joué dans différents westerns, dans certains poliziotesco. Sinon, Cult Metal Classics va rééditer l'album The Grip, qui est sorti en 85 chez Auburn Records, le label de Cleveland. Donc The Grip, du groupe de San Francisco Avoc. Et ça, c'est en fin d'automne 2024. Et ils vont aussi faire une anthologie du groupe Airborne, donc R-A-I-R plus loin, Born, un groupe suédois de heavy metal, donc des années 80, à ne pas confondre avec les Australiens de Airborne. Voilà pour les news. on va écouter Iron Virgin Rebels Rules, et ensuite on va écouter, je crois que c'est donc sur la compilation Can the Glam, American Jam Band. Là, on pourrait dire qu'on parle aux auditeurs de Sunday Stripper, quelque part, avec ce genre de programmation. On poursuit donc, alors c'était donc Iron Virgin Rebels Rule de 74, et on poursuit avec American, où est-ce qu'il est le nom du groupe ? American Jam Band, Jam Jam, c'est sur le volume 1 de la compilation Can the Glam.
Jam, jam,
T-Rex, Dreamy Lady, et on poursuit avec Cardinal Point, Keep on Dancing.
Keep on dancing, keep on dancing, all night long. Keep
UK Jones, Let Me Tell You, et on continue avec Kiss Strutter.